not the kind of guy who can grow a mustache. But I am the kind of guy who could try to buy cigarettes and end up getting asked for some form of identification, some form of identification. Sometimes it is nice to look back, and sometimes it is painful to look ahead. When I sleep, I feel like a genius. When I wake up, I feel like I am dead, 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 dead. My mum's been cleaning out the garage. Relics of the past, hidden in boxes at the back and beneath the shit and dust. She found ticket stubs from punk rock shows. Do you remember when we used to go and dance at those punk rock shows? Do you remember when we used to go and dance at those punk rock shows? It feels so long ago. Feels so long ago. Do you remember that night when that skinhead threatened me with my life? You should have realized right then that something weren't quite right. We were just teenagers looking for a scene based upon simplistic notions of equality. Or ain't it a fucker when you discover that it's all based upon slightly altered versions of the same old crap, like patriarchy, like hierarchy, like heteronormativity, like masculinity, like sexism, like nationalism, all bundled up in a package of ripped denim jeans, painted leather jackets, drunken stares, and the politics of fashion, and the politics of fashion, the politics of fashion. So in my garage, in a box at the back, I found an old notepad in my school rucksack. It was dated from 2005. And on the cover in a biro, I had scribbled punk rock kids for life. 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 Ended up selling that leather jacket on eBay. Don't have the looks, but got something to say. I've got a limp wrist record on me stereo. I've got a limp wrist record on me stereo. And the only kind of skinhead that I listen to now goes by the name of Michel Foucault.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans dieu ni maître ni publicité. Voilà, donc on a José au platine qui choisit les morceaux comme d'habitude et qui entretient notre site internet que vous trouverez sur Gurdulu. Donc vous tapez Gurdulu jeudi noir et vous trouverez ça. Je le dis au début avant qu'on oublie. Voilà, et Jean-Mathias qui a travaillé cette fois-ci. Donc Cette fois-là. Et vous venez d'entendre quelque chose qui n'est pas sans rapport avec ce dont nous allons vous parler. C'est de Casual Terrorist. C'est un chanteur anarcho-folk. Donc ça, c'est son nom de scène, hein, grand breton. Et le titre du morceau, c'était Michel Foucault, Is My Favorite Skinhead. Donc Michel Foucault est mon skinhead préféré. Et voilà, le rapport est évident, puisqu'on va parler d'un bouquin qui a été publié chez Aden,
Naguère,
en novembre, et qui s'intitule Critiquer Foucault. Donc c'est les années 1980 et la tentation néolibérale. Donc c'est un livre avec plusieurs articles. Moi j'ai pas eu le temps de lire en entier, mais je pense que c'est intéressant. Jean-Mathias, tu par contre a pu tout faire. Donc ça a été dirigé par Daniel Zemorin. Vous avez un article de Michael Scott Christopherson qui avait publié un bouquin pas mal chez Agon sur justement comment la gauche française finalement est passée plus ou moins à droite. Enfin la gauche intellectuelle française est passée plus ou moins à droite. Et donc vous avez un article aussi de Vacant dont on vous parlera et tout un tas de choses. Alors c'est plutôt marxiste d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est plutôt d'inspiration.
Plutôt d'inspiration marxiste, voilà. Mais en tout cas, il s'attache à montrer que dans les années, fin des années 70, début des années 80, finalement, Foucault a lu et apprécié tout un tas d'auteurs néolibéraux. Alors, bon, moi j'ai beau être un lecteur et à l'état de niveau, quand même un peu plus ou moins un admirateur de Foucault, je pense qu'on ne peut pas éviter de le critiquer, et en particulier parfois au niveau politique et sur ses positions théoriques. Alors peut-être que Jean-Mathias va pouvoir nous en dire plus.
En fait, oui, sur le je crois qu'un des principaux intérêts du livre, que je recommande vraiment, hein, Critiquer Foucault, les années 80 et la tentation néolibérale.
L'édition Aden.
Voilà, je recommande vraiment parce que, c'est un livre, tu l'as dit, qui est plutôt d'inspiration marxiste ou marxisante, on va dire, et dont le propos finalement, ce qui sert de fil rouge à tous les articles, c'est de montrer comment Foucault est finalement beaucoup plus proche de la pensée politique néolibérale qu'on ne le croit souvent. Alors, la critique qui est faite un peu tout au long des articles est d'inspiration marxiste, c'est-à-dire que ce qui leur sert, eux, de fil rouge, c'est finalement ce qui serait une forme d'anticommunisme de Foucault. Alors, on sait que Foucault a été au Parti communiste
très brièvement,
sur une courte période des années 50, et puis ensuite, il a quitté le Parti communiste, il a été très proche des maoïstes aussi après 68, et il y a un dernier Foucault, en fait, qu'on connaît moins. Après sa période maoïste, il a été adulé vraiment par tous les nouveaux mouvements sociaux qui venaient de 68, évidemment, notamment à propos des prisons. C'est un des fondateurs du GIP, bien sûr. Et ce qu'on connaît moins, c'est sa dernière période, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il est au Collège de France et ses derniers cours, où il se rapproche sensiblement de la philosophie politique libérale, et pas de n'importe laquelle, c'est-à-dire que d'après les auteurs, il se rapproche de la philosophie néolibérale, c'est-à-dire de la vague néoconservatrice qui est en train de se mettre en place en Grande-Bretagne et aux États-Unis à la suite d'auteurs comme Hayek ou même des économistes type Milton Friedman qui a fourni notamment tous les cadres des dictatures sud-américaines.
En particulier au Chili.
Et en fait, ça, effectivement, c'est intéressant. Moi, j'avoue que je connaissais pas, je savais pas à quel point effectivement Foucault avait été attiré par cette option politique. Vraiment, c'est ce qui montre de manière assez concluante là dans la plupart des articles à la fin de son œuvre. Alors, ça, c'est le côté intéressant. Le côté intéressant aussi, me semble-t-il, c'est que je suis pas d'accord avec tous les arguments qui sont avancés pour critiquer Foucault. C'est-à-dire que comme c'est un livre qui, pour la plupart des auteurs, pas tous, c'est pas le cas de Vacant, par exemple, qui n'est pas sur cette ligne-là, mais la plupart des auteurs, effectivement, se positionnent plutôt d'un point de vue marxiste, et donc, pour beaucoup d'entre eux, le fait d'être anticommuniste est un argument en soi pour rejeter Foucault, ce qui est un peu court, oui. Voilà, par bien des aspects. Alors, de manière très générale, après j'ai parlé un petit peu plus dans le détail, il y a des passages un peu du bouquin, mais je trouve que c'est intéressant sur l'histoire de la pensée de Foucault. C'est intéressant sur le néolibéralisme aussi, me semble-t-il, parce que Foucault le lit d'une manière qui est éclairante, je trouve. C'est intéressant sur l'anarchisme, parce que Foucault est a raison pour une certaine période de son œuvre, considéré comme un penseur de tendance anarchiste et même, en tout cas, anti-étatiste, ça c'est clair. C'est intéressant sur la manière dont on peut passer d'un anti-étatisme anarchiste à un anti-étatisme néolibéral, et on voit que c'est pas si compliqué, en tout cas il y a un certain nombre de verrous à faire sauter, et Foucault a très bien vu lesquels d'une certaine manière. Donc pour toutes ces raisons-là, vraiment je conseille, parce que c'est très instructif, ça se lit très bien, c'est pas un livre très très théorique. Il y a un article un peu plus pointu que les autres là, d'un sociologue allemand notamment, Yann Reimann, là, qui est un petit peu plus, précis, mais vraiment je conseille, parce que sur tous ces aspects-là, c'est très enrichissant. Donc, alors, je vais essayer d'en dire quelques mots. Peut-être garder, il y a un article qui a une place à part dans le recueil, c'est l'article de Loïc Vacan, qui est, alors Loïc Vacan, qui est donc un sociologue, un élève de Bourdieu, un de ses plus proches, hein, notamment à la fin de la vie de Bourdieu, et qui est un spécialiste des politiques pénales et du tournant pénal des États néolibéraux, précisément.
Beaucoup étudié la prison aux États-Unis.
La prison aux États-Unis.
La prison de la misère et
exactement.
Un autre.
Le livre central, il s'appelle Punir les pauvres.
Oui, Punir les pauvres.
Et il a donc une place qui est un petit peu charnière finalement sur la question des prisons et du carcéral, parce que donc lui il l'approche en sociologue, pas en philosophe comme le faisait Foucault, mais en tant qu'élève de Bourdieu, il est évidemment, il a été biberonné au travail de Foucault, notamment aux analyses qui sont développées dans Surveiller et punir, et à la critique que Foucault a fait du milieu carcéral et à la manière dont Foucault reliait ça à une analyse politique finalement. Des sociétés modernes, on peut dire, hein, des sociétés modernes et des sociétés libérales en particulier. Et alors, je garde peut-être cet article pour la fin, parce que donc c'est un article qui est assez carré, où il montre en fait quels sont tous les points sur lesquels Foucault s'est trompé, selon lui. S'est trompé factuellement, c'est-à-dire comment les prévisions que Foucault avait établies en fait ne se sont absolument pas vérifiées. Et donc voilà, j'en dirai un mot un petit peu à la fin, parce que je sais que bon, ça intéresse peut-être plus les auditeurs, et puis bon, sur cette antenne, c'est un sujet qui nous est cher, donc j'en dirai un petit mot à la fin. Avant ça, je voudrais voilà parcourir un petit peu les différents articles qui sont proposés. Alors tu as cité effectivement les auteurs Michael Scott Christopherson, qui est donc un chercheur américain spécialiste de l'histoire intellectuelle française de l'après-guerre. Alors vous avez un premier article d'abord, je ne vais pas en dire grand chose parce qu'il est essentiellement factuel et historique si vous voulez, qui s'intéresse à la manière dont Michel Foucault a pu soutenir le lancement de ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes.
Ah oui, Glucksmann en particulier.
Et oui, Glucksmann en particulier, à la sortie du livre de Glucksmann, Les Maîtres Penseurs. Alors les nouveaux philosophes aujourd'hui, ils sont tellement omniprésents médiatiquement qu'on a oublié qu'ils ont été nouveaux un jour.
Ça fait tellement longtemps qu'ils sont omniprésents.
Et on perd le contexte, quoi. Bon, alors effectivement, donc il faut remettre. Hein, donc Glucksmann est un ancien Mao, très anarchisant, il faut dire, et un anticommuniste assez viscéral, on va dire, et qui a été un des premiers à lancer la grande offensive antitotalitaire. Dans le débat intellectuel-médiatique en France.
À partir de la découverte, avec de grosses guillemets, de l'œuvre de Soljenitsyne.
De Soljenitsyne et des dissidents soviétiques. Et alors là, Christopherson montre comment, en fait, Foucault a applaudi des deux mains et a pesé tout son poids académique à l'époque pour, en gros, rendre, comment dire, acceptable, hein, par les médias et dans le débat intellectuel les positions de Glucksmann. Pour deux types de raisons, d'après lui, à la fois des raisons de fond, c'est-à-dire qu'il était sensible, effectivement, comme Glucksmann, à la critique de l'État et à la critique du communisme d'État qui est développé dans le travail de Glucksmann. D'autres points de convergence, c'est la notion de plèbe, dont on a déjà parlé assez souvent ici. Glucksmann en fait un très très grand usage. Moi, j'ignorais, parce que je vous avoue que je me suis épargné la lecture de Glucksmann jusqu'à présent. Le concept de plèbe, il est central, hein, chez Glucksmann. Et c'est une manière, effectivement, de penser le peuple et d'avoir un sujet révolutionnaire de substitution, hein, par rapport à la classe ouvrière classique, hein, qu'on trouve dans le mouvement ouvrier révolutionnaire jusqu'alors. Donc des rapprochements et des convergences de fond. Et ce que montre aussi très bien Christopherson, c'est la manière dont Foucault a aussi senti le vent, tout simplement, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle scène médiatique et d'une nouvelle mode médiatique qui allait, conduire à une espèce de d'hégémonie finalement de la pensée politique libérale et néolibérale en particulier. Et l'article est assez bien foutu de ce point de vue-là, où il montre effectivement comment on passe effectivement à la fois d'arguments de fond, de rapprochements de fond, à des considérations beaucoup plus tactiques de Foucault.
Oui, qui sont révélées par le fait que Foucault, habituellement si pointu quand il s'agit de se situer lui-même et ses adversaires, etc., là il fait, il lit Glucksmann de loin, Glucksmann l'a lu de très très loin, il l'utilise un petit peu à la va-vite, et ça gêne pas du tout Foucault que Glucksmann ait un usage plutôt cavalier de certaines idées développées par lui dans les ouvrages antérieurs. Et ça m'a fait un peu marrer, parce que finalement Foucault qui est là, mais non, je suis pas historiciste, je suis pas ceci, je suis pas cela, et qui va dans le détail du moindre, et puis là t'as Glucksmann qui écrit à la louche, après les passages que j'avais lus cités par Christopherson, et puis y a pas de problème pour Foucault, quoi, c'est bon.
Mais ça veut dire, enfin, l'hypothèse qu'il défend là-dedans, je ne connais pas suffisamment Foucault pour ça, ni l'histoire intellectuelle de la période, mais l'hypothèse de Christopherson, c'est que Foucault est sans doute un de ceux qui a tout au long de son œuvre finalement le mieux senti le vent, en fait. Un peu avant tout le monde, c'est-à-dire que effectivement, il est communiste quand il faut l'être, il est maoïste, alors un peu en retard, parce que comme tous les intellos de cette période-là, ils sont tous passés à côté de mai 68, lui il était en Tunisie, donc en l'occurrence c'était, mais si c'est le cas de tous les grands Mao, y compris nos grands maîtres à penser aujourd'hui, type Badiou, qui était dans des turnes à Normal Sup en train de potasser les textes des grands anciens pendant qu'il y avait des barricades dehors, parce qu'il pensait que la situation n'était pas mûre, mais qui après, par contre, ont fait effectivement un grand usage de l'événement a posteriori pour légitimer toute une réflexion politique extrêmement radicale, bien entendu, une fois que les barricades avaient été démontées. Foucault est un peu de la même manière. Il a aussi pressenti très bien, et ça Christopherson le reconnaît, l'émergence de ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux, donc évidemment les féminismes, mais aussi le mouvement autour des prisons, toutes les luttes, ce qu'on a appelé les luttes spécifiques, hein, et puis Foucault a fourni un petit peu en kit une figure de l'intellectuel qui serait adaptée à ces mouvements spécifiques, c'est-à-dire ciblée au fond, et déconnectée de l'idée de lutte des classes, et l'idée qu'il y aurait une lutte principale et essentielle qui reposerait sur l'exploitation capitaliste. Et Foucault, on le sait, hein, est un des inventeurs de la notion d'intellectuel spécifique, contrairement à la figure de Sartre, qui était lui, évidemment, sur tous les fronts, l'intellectuel total. Donc là, c'est pareil, bien joué, dit Christopherson, il a bien senti l'émergence de ces nouveaux mouvements sociaux-là. Et puis, il a continué, c'est-à-dire qu'effectivement, au début des années 80, il a parfaitement senti, et ça, Christopherson le met en lien avec l'histoire politique, c'est-à-dire notamment le rapprochement entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste au moment du programme commun. Il a, en fait, ça convient pas du tout à Foucault, ce rapprochement-là, et la manière dont la stratégie de Mitterrand à l'époque pour accéder au pouvoir le conduit à se rapprocher des communistes, ça lui plaît pas du tout. Il est pas le seul d'ailleurs. Non, la plupart des intellectuels de l'époque vomissent complètement contre ce rapprochement, par anticommunisme, motivé en partie, peut-être un peu moins par d'autres. Et du coup, il a senti effectivement aussi le vent tourner, c'est-à-dire qu'il a anticipé le tournant de la rigueur quelques années avant, et il a senti la montée de cette vague néolibérale dans laquelle on est toujours, hein, même si le roi est de plus en plus nu, si on peut dire. Donc cet article-là vous présente ça de manière très intéressante. Pour résumer, peut-être, je vais lire des petits passages. Alors là, c'est dans le deuxième article. Un article de Michael Behrendt, qui est un historien aussi. L'article est intitulé « Libéralisme sans l'humanisme, Michel Foucault et la philosophie du libre marché ». Donc c'est un article qui est ciblé sur la période 76-79. Alors, il y a une petite formule là que je vous la lis, parce que il me semble que ça résume bien la position de Foucault et le prestige de Foucault dans les milieux de gauche, d'extrême gauche, et dans les milieux anarchistes aussi. Alors, il résume ça un peu comme ça, en disant, c'est page 39, il dit « La familiarité de Foucault est due en partie au fait qu'on comprend immédiatement la force politique de ce qu'il a à dire. En dévoilant les toiles de pouvoir subtiles mais largement répandues qui nous prennent au piège, Foucault nous suggère en même temps une solution pour s'en dégager. On peut raisonnablement présumer qu'il offre une politique de liberté, une initiation, comme il l'a un jour évoqué, à l'art de ne pas être gouverné. Nous sentons intuitivement que ses idées politiques sont émancipatoires, même si nous savons qu'il n'est pas plus marxiste que social-démocrate. Nous tournons vers lui non pas pour contester mais pour enrichir la palette de la critique sociale gauchiste dans la mesure où Michel Foucault, comme nous l'imaginons, est certainement un homme de gauche. Il est vrai que nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il serait un jeune conservateur. Ça c'est une formule d'Habermas. Nous nous souvenons peut-être qu'un grand philosophe a un jour appelé Foucault « la dernière barrière que peut encore élever la bourgeoisie contre Marx ». Ça c'est Sartre. Mais la majorité d'entre nous trouve difficile de prendre ces accusations au sérieux. Comment un penseur qui divulgua les intentions répressives tapis dans des projets bien intentionnés de réforme sociale, qui démasqua les mécanismes sectaires de la rationalité inspirée des Lumières et qui nous somma de venir à bout de notre fasciste intérieur, pourrait-il être autre chose qu'un intellectuel de gauche, bien que brillamment original ? Je trouve que ça résume assez bien, en fait, le prestige et l'image en fait dont jouit Foucault à la gauche de la gauche, dans les mouvements sociaux, et y compris chez les libertaires. La force de Foucault, elle tient aussi, me semble-t-il, au fait que finalement, il déploie une théorie du pouvoir. Bon, ça, on l'a dit souvent, hein, qui est extrêmement plastique, c'est-à-dire qui évolue tout au long de son œuvre. Et d'autres articles mettent ça en avant, notamment sur les donc Foucault est un des grands penseurs du pouvoir de l'État notamment. Mais en fait, ce que montre
pas du
le
pouvoir de l'État, parce que justement il montre, il n'arrête pas de montrer que le pouvoir ne se limite pas à l'État et que le pouvoir c'est des rapports et que c'est des rapports qui s'établissent à tout un tas de niveaux et que si on essaie de comprendre le pouvoir comme étant pouvoir d'État, finalement on comprend pas le pouvoir en général ou dans ses dimensions particulières.
Alors,
ce qui fait que c'est pas tellement un critique. En fait, à des tas de niveaux, c'est même pas tellement un critique du pouvoir d'État dans ces bouquins.
Alors,
c'est ça qui est rigolo.
Là, je suppose qu'on peut en discuter un peu parce que là, en l'occurrence, effectivement, on peut se demander si ce qu'ils appellent l'anticommunisme de Foucault est pas une forme quand même de critique du pouvoir d'État par un prisme bien particulier.
Oui, possible. Hein,
c'est une question qu'on peut se poser. Il y a au fond, alors on résume. Bon, là, tu me complètes parce que tu connais bien mieux Foucault que moi. Mais le résumé qui est proposé par Berendt, au fond, c'est de dégager au moins trois sens du pouvoir ou, si je reprends le terme de Foucault, des techniques de pouvoir de la gouvernance. Mentalité. Ça a au moins trois sens dans son œuvre. Hein, et il montre qu'effectivement, on passe de l'un à l'autre au cours de l'œuvre de Foucault. Il y a un premier sens qui est en fait ce que Foucault rapproche de la figure du pasteur, c'est-à-dire de celui qui est du gardien de troupeau. Et
assez tardif, mais oui.
Alors, cette première forme, effectivement, est la plus. C'est à la fois tardive dans son œuvre et qui, en même temps, nous ramènerait le plus loin dans l'histoire.
Oui.
Réel, hein. C'est-à-dire qu'il associe ça.
C'est dans le gouvernement des vivants, un cours du Collège de France des années 70, qui commence à étudier le concept de gouvernementalité et effectivement qui va se pencher sur la pastorale, c'est-à-dire sur la réflexion de certains théologiens sur comment gouverner, c'est-à-dire comment mener au salut,
c'est
si
ça.
Gouverner, c'est ce que ça signifie, sa paroisse, ses ouailles. Et ça pose tout un tas de questions du type faut-il sacrifier le troupeau pour une brebis égarée, etc., etc., etc. Donc ça c'est plutôt ce type de questions apparaît à la fin chez Foucault.
La deuxième figure d'après Berendt, c'est le pouvoir disciplinaire. Alors ça c'est peut-être ce qui est le plus connu au fond.
Donc surveiller et punir.
C'est surveiller et punir. Alors la figure
71.
Évidemment 71. Donc là évidemment c'est ce qui se rapproche le plus pour le coup des analyses anarchistes classiques, c'est-à-dire que on a une espèce alors oui et non, bien entendu, toujours avec l'originalité de Foucault, c'est-à-dire que le surveiller et punir, c'est le grand texte articulé autour de la figure du panoptique, hein, vous savez, cette espèce de modèle de prison idéale, qui est conçu par un philosophe, et un politique anglais, Bentham, hein, qui imagine un système carcéral, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, qui consiste à surveiller les prisonniers de la manière la plus efficace possible, mais avec le minimum de gardiens. Avec l'idée d'une tour finalement centrale qui permettrait par un système de glace sans teint, on peut dire, hein, en fait, voilà, de surveiller à partir de la tour l'ensemble des cellules qui elles sont en exposition par transparence construites tout autour de la tour.
L'essentiel étant que chaque prisonnier se sache potentiellement surveillé à tout moment.
Exact. Le coup, c'est ça. Et le coup de génie Bentham, c'est de dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un surveillant dans la tour.
Exactement.
Il suffit que les prisonniers pensent qu'il puisse y en avoir un. Mm. Hein. Et alors, ça s'accompagne chez Bentham, bien sûr, aussi d'un souci pour l'hygiène des prisonniers, pour leur santé. Mm. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que dans le panoptique de Bentham, à l'origine, les cellules ne sont pas grillagées. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres, c'est à la campagne. Il y a des questions d'hygiène et de salubrité et de santé des prisonniers qui sont importantes. Et alors, donc, sur l'extérieur, les cellules sont ouvertes, mais à l'intérieur, ils savent qui peuvent être effectivement, par la partie transparente de leur cellule, être surveillés à tout moment. Et du coup, l'idée de Bentham, le pari de Bentham, consiste à dire que c'est la technique de surveillance, et donc d'après Foucault, de contrôle des individus, qui est la plus efficace et qui est intéressante parce qu'elle ne suppose pas d'avoir des informations trop précises sur les individus. On raisonne de manière statistique, et ça correspond, d'après Foucault, à l'émergence du pouvoir d'État libéral, il faut quand même le dire à un moment donné, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire hein, une manière où finalement le pouvoir n'a plus à mettre en scène sa puissance physique, sa cruauté. La première page de Surveiller et Punir, c'est l'écartèlement de Damien.
Le supplice de Damien, oui.
Voilà. Donc où on montre que là, on est typiquement sous une forme de pouvoir d'Ancien Régime, où il faut mettre en scène la force, la cruauté,
spectaculaire.
Voilà, le pouvoir de mort du gouvernement politique. Avec l'émergence des États modernes, on n'a plus besoin de sortir les muscles de cette manière-là. On raisonne avec des connaissances statistiques et avec une surveillance finalement bien plus efficace des individus et qui est, d'après Foucault, c'est l'intérêt, qui au fond va dépasser très largement évidemment les murs du panoptique et qui va, d'après lui, envahir l'ensemble de la société.
Complètement, dire que d'après Foucault, et c'est pas totalement faux en plus quand on se renseigne un petit peu, les ateliers, les usines, les écoles, les hôpitaux, les prisons, les hôpitaux, enfin tout ça c'est construit sur le même modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle où on peut surveiller tout un chacun.
C'est ce que dit Foucault en tout cas.
Et par exemple, ça peut se donner architecturalement, ça peut se manifester dans certaines écoles comme dans certaines prisons, comme dans certaines usines, par des espaces ouverts.
L'open space actuel, typiquement sur un modèle panoptique.
Complètement. Mais avec, par exemple, les escaliers autour d'un grand espace central, et où n'importe quel surveillant peut, du dernier étage, observer ce qui se passe au premier. C'est ça l'idée de Foucault, du panoptisme généralisé dans une société de la surveillance.
Alors ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui plaît aux anards. Ça plaît aux anards parce que ça permet effectivement de repenser le fonctionnement de la prison et puis de proposer une critique sociale. Le point important, c'est d'après Foucault, il s'agit d'une mutation sociale. Hein, c'est ça qui est important. C'est une manière toujours pour lui d'évacuer la question du pouvoir politique des théories classiques du droit ou de l'état de droit ou de la légitimité. Hein. Il s'agit de penser ça finalement comme une transformation des rapports sociaux eux-mêmes. Hein. Foucault est peu intéressé, alors ça c'est pareil, c'est un point sur lequel ils reviennent beaucoup, et pas tellement intéressé par les formes juridiques du pouvoir, c'est-à-dire par les théories de la légitimité de l'État par exemple.
Non, si je me souviens bien, dans Surveiller et Punir, il y a tout un moment où justement il dit que le droit est totalement secondaire.
Oui, c'est ça.
Et que le droit n'est qu'un effet finalement, c'est l'écume.
Exactement.
Hein, et les vraies forces se jouent en
c'est
dessous.
C'est ça.
Même si dans Surveiller et Punir, une des façons qu'il a de justifier l'avènement du nouvel état pénal, c'est ce qu'il pense être le déplacement d'une criminalité orientée sur les personnes à une criminalité orientée sur les biens. Donc en gros, on a des tueurs pour être des voleurs. Et par rapport à la bourgeoisie, ce qui compte, c'est de protéger les biens. Donc, et pour lui, c'est un rôle important dans la mutation de la pénalité d'Ancien Régime à la pénalité des régimes libéraux. Malgré tout, bon, il s'intéresse quand même un petit peu au droit de ce point de vue-là, en tout cas.
D'accord.
Après, je sais pas, il y a des historiens qui ont dit que cette soi-disant mutation d'une criminalité orientée vers les personnes à une criminalité orientée vers les biens était historiquement fausse. Mais...
Après, j'en dirais deux mots sur l'article de Vacan, parce qu'il est effectivement assez critique aussi là-dessus. Et puis la saison 3 de Foucault, c'est les derniers cours du Collège de France, là, où va émerger un nouveau concept de pouvoir chez lui, ce qu'il appelle le biopouvoir, et qui, alors là, déplace la question sur la manière dont l'État, les sociétés, là pour le coup, voilà, on va vite là-dessus, finalement se donne pour mission et pour technique de pouvoir le contrôle de la vie elle-même, des individus avec cette maxime, si vous voulez, ou ce principe, hein, l'idée que finalement la mission de l'État, et ce qui définit aussi cette technique effectivement de gouvernement, consiste à concentrer les pouvoirs du faire mourir et du laisser vivre. Alors le biopouvoir, ça passe par tout un tas de dispositifs et ça amène du coup Foucault à défendre des positions. C'est ça qui va évidemment, c'est ce Foucault-là qui intéresse les auteurs des articles. Oui. Ça amène Foucault à critiquer toutes les formes collectives d'organisation, par exemple de la sécurité sociale ou de politique de santé publique ou tout ce genre de choses, qui sont d'après lui les formes modernes de contrôle et de gouvernement des individus. Et ça l'amène à une position très clairement, par exemple, contre la sécurité sociale. Contre la sécurité sociale, alors avec des arguments d'une mauvaise foi, parfois assez impressionnante, parce qu'il y a des extraits de Foucault cités, là, où il explique en fait que la sécu, finalement, est censée être un système de répartition des richesses, mais en fait, pas du tout. En fait, les riches continuent de s'en foutre plein les poches, et c'est les pauvres qui payent pour les maladies des riches. Quand on regarde le détail des comptes de la Sécu, c'est pour le moins expéditif, quoi. Et on sent que derrière, il y a une espèce de mauvaise foi crasse. Enfin, il met effectivement un argument là-dessus au service de cette dernière figure du pouvoir, le biopouvoir. Alors, évidemment, ce qui l'intéresse là-dedans et ce qui intéresse beaucoup.
La distinction est un peu, vas-y, continue.
Ouais. Bah tu me diras, mais ce qui intéresse les auteurs dans l'émergence de cette nouvelle analyse des techniques de pouvoir et des techniques de gouvernement des sociétés modernes, c'est justement que selon eux, c'est ce qui a permis ce glissement-là, hein, c'est la lecture par Foucault des néolibéraux. Des néolibéraux, c'est-à-dire que ce qui intéresse Foucault, c'est pas le libéralisme politique, mais ça on s'en doutait. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les défenseurs des libertés individuelles, c'est pas les libéraux classiques, type Locke. Alors, il y a une méfiance à l'égard de toutes les instances étatiques de contrôle des individus, parce que c'est des instances normatives, parce que c'est des instances disciplinaires, parce que voilà. Mais c'est pas tellement ce libéralisme-là qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le libéralisme économique, c'est-à-dire le laisser-faire. Hein, les puissances de satisfaction des désirs et des besoins du marché, lorsqu'il est livré à lui-même, il travaille sur les physiocrates, notamment, c'est-à-dire sur les ancêtres des libéraux.
Il y a plein d'analyses très très fines des différentes formes de libéralisme.
Tout à fait. L'ordo-libéralisme allemand, les physiocrates français.
Et moi, c'est des analyses que je vous conseille de lire, hein, Charles Auditeur, parce qu'elles sont. Il est très informé, c'est des analyses fines. Alors, c'est du Foucault, c'est-à-dire que c'est très très brillant. Parfois, on se demande si c'est du lard ou du cochon. Mais malgré tout, je pense qu'on peut retirer quelque chose.
Et alors, son idée, l'idée en tout cas des auteurs, là, c'est de montrer finalement que ce qui l'a intéressé dans ce libéralisme économique et pas politique. Il ne s'agit pas de défendre les libertés fondamentales ou de les libertés juridiques des individus auxquelles Foucault ne croit pas. Hein. Il n'est pas dans une espèce de débat entre les droits des individus et puis la légitimité de l'État. Et il n'est pas dans cette question-là. Évidemment pas du coup dans l'idée d'une prise de pouvoir éventuelle ou d'une modification des droits ou d'un progrès des droits individuels. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la manière dont effectivement les gouvernements modernes, pour faire vite, s'appuient finalement sur une espèce de théorie de la nature, mais pas de la nature humaine, bien sûr, hein, mais une espèce de théorie de la nature des échanges, de la nature du marché d'une certaine manière, même si le concept de nature n'existe pas chez lui, hein, là je schématise, mais l'idée que finalement c'est la formule qu'ils utilisent, c'est finalement ce qui intéresse Foucault là-dedans, c'est l'idée d'un libéralisme sans humanisme, c'est-à-dire que ces libéraux-là, hein, évacuent l'idée de d'être humain, doté de droits fondamentaux, de droits naturels, etc. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est d'avoir une organisation sociale où les convictions et les droits individuels, finalement, ne sont pas premiers. Ce qui compte, c'est d'abord, effectivement, des échanges libres, dans le cadre d'une concurrence non faussée. Hein, et les droits sont secondaires par rapport à ça.
Hein. Parce que, de toute façon, les droits sont secondaires.
Ouais. Les auteurs utilisés par Foucault, c'est pas simplement des références historiques lointaines. Hein, visiblement, il a lu Hayek, hein, qui est donc un
connaît très bien le libéralisme du XXe siècle.
Tout à fait.
Friedman, il connaît tout à fait la conférence et il la commente, une des conférences de 36, je sais plus, j'oublie toujours. où Aaron était, mais pas que, il y avait aussi Hayek, il y en avait quelques-uns. Il est très très informé, c'est évident. Ouais.
Et donc,
il connaît les débats internes plus à ce libéralisme. Ouais. Ce qui est rigolo, parce que par exemple, l'ordolibéralisme allemand, c'est un ordolibéralisme d'après Foucault, c'est l'idée que justement, la concurrence n'étant pas, le marché n'étant pas naturel, la concurrence soi-disant libre et non faussée va forcément aboutir à la production de monopoles qui va détruire le libéralisme.
Donc, elle doit être régulée à la base par un cadre juridique, mais minimum.
Par un cadre juridique, non, qui peut être relativement costaud. C'est-à-dire que ça peut donner le droit au gouvernement de casser des monopoles et d'obliger certains propriétaires à vendre une partie de leurs biens pour justement briser leur monopole. Ce qu'on a pu trouver aux États-Unis ou en Allemagne, ou aujourd'hui en Europe, au niveau justement d'une des commissions les plus puissantes, c'est la commission anti-concurrence. Et c'est assez rigolo de lire parce que, bon, effectivement, tous les concepts de nature, même au niveau du marché, malgré tout, il les casse. Mais il connaît tout ça. En
fait. Ouais. Ah oui, c'est une certitude avec l'idée donc que derrière, effectivement, alors la critique qui est apportée par les auteurs ici, ça consiste à dire que finalement, d'une certaine manière, à un moment donné, on voit plus très bien ce qui distingue Foucault des néolibéraux proprement dit, dans la mesure où il semblerait, d'après eux, il faut regarder les textes là encore, qu'à un moment donné, Foucault, se rend compte que à tout prendre. Le projet néolibéral, finalement, est peut-être celui qui est le plus respectueux des capacités de chaque individu,
des potentialités humaines,
exactement, à se réaliser, à se construire, à écrire sa vie indépendamment de normes dominantes ou contraignantes qui seraient imposées notamment par l'État ou par la collectivité en général. Et donc là on a effectivement un...
Si c'est le cas, il s'est foutu le doigt dans l'œil,
cela dit, il y a beaucoup de choses qui effectivement convergent effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire que au fond, il me semble, mais bon, avant qu'on fasse peut-être une petite pause, il y a l'idée finalement que ce qui se trouve évacué d'après ces auteurs-là, c'est l'idée, et du coup ça remet en cause beaucoup de choses, c'est l'idée finalement que Foucault, est-ce que Foucault peut vraiment nous permettre de construire des outils qui permettent de critiquer la situation qu'il décrit. C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'à liquider en quelque sorte le messianisme prolétarien, l'idée qu'il y aurait une classe porteuse, effectivement, victime de l'exploitation et qui serait du coup porteuse de progrès, etc. Est-ce qu'en liquidant ça au profit de ce qu'il appelle les marges ou la plèbe ou de mouvements sociaux atomisés, il y a à la fin Hamsel là qui utilise l'idée d'une espèce de politique du fragment. Je trouve que l'image est assez intéressante. Est-ce qu'effectivement, en faisant ça, on se donne réellement les moyens de lutter contre, du coup, les injustices bien réelles qui sont portées par le fonctionnement d'une société de marché néolibérale? Alors bon, voilà, ça tourne autour de ces questions-là. Peut-être faire une pause pour ne pas endormir tout le monde.
On va choisir un, et puis José va vous diffuser un morceau.
Je dirais simplement ceci, je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de maturité, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de cette essence humaine, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe, et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui devrait, qui doit en principe, bouleverser les fondements mêmes de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification qui soit.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième période. Vous venez d'entendre un morceau de... Oula, José m'a redonné un truc. Michel S. Superstar. Et c'est une extrapolation sans fondement historique, le titre du morceau. C'est tiré de l'album Je ne suis pas philosophe du collectif Mauvais pour les yeux. C'était Michel Foucault Superstar, donc pas de... On n'en sait pas beaucoup plus sur les musiciens. Voilà, Jean-Mathias, donc tu nous parlais de la tresse finale décryptée par certains de Foucault pour le néolibéralisme, donc de gens comme Hayek, un économiste autrichien qui a commencé sa carrière très très tôt dans les années 30, qui a fondé le Mont Pèlerin dans les années 40. Mont Pèlerin qui était une association qui visait à réunir des intellectuels, des hommes de pouvoir et des chefs d'entreprise pour lutter contre le communisme discret des partisans de
la sécurité sociale.
De la sécurité sociale et de ce grand communiste qui était Keynes, comme chacun sait. Bon, Keynes était un bourgeois qui n'était absolument pas communiste, hein, je précise quand même, c'était l'ironie. Voilà, ou de Friedman, donc Friedman, un héritier de Hayek, sans doute moins brillant intellectuellement, mais politiquement, bon, encore plus fanatique et plus clair. Donc voilà, pour resituer un petit peu les choses.
Donc oui, on parle, c'est que le livre de ce soir, là, c'est critiquer Foucault, hein, les années 80 et la tentation néolibérale. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure là effectivement José nous indiquait à la pause que ça planait un peu là effectivement. Alors pour des non lecteurs de Foucault ou non philosophes, on s'excuse un peu parce que c'est un auteur qui est passionnant et qui en même temps est difficile et jargonnant, etc. En partie, ça on peut le dire sans crime de lèse-majesté, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Après, bon, du coup, c'est important de en général sur des auteurs comme ça d'arriver de prendre les dernières pages pour voir à quelle conclusion il arrive, quoi, hein, de manière concrète, quand il y en a. Alors là, il y en a, bon, j'en ai évoqué une tout à l'heure, c'est par exemple la manière dont ces analyses le conduisent à remettre en question l'existence de la sécurité sociale, comme forme de contrôle des individus, de leur mode de vie, de leur manière d'être, de leur santé, et du coup comme forme diffuse et perverse finalement de discipline des individus par les gouvernements modernes. Il y a une deuxième conclusion, alors ça j'ignorais pareil, c'est une conclusion effectivement que Foucault tire des néolibéraux, c'est la notion d'impôt négatif. Alors ça a un autre nom, et ça intéressera aussi un certain nombre de nos auditeurs, parce que c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les sources historiques de certaines revendications. C'est la revendication qui est aujourd'hui formulée sous le terme d'allocation universelle. La notion d'allocation universelle, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de non pas de salaire, puisqu'elle ne correspond pas à un travail, mais de revenus d'existence minimum versés de manière inconditionnelle à n'importe qui, hein, par la collectivité, hein, sur la base des richesses produites. Cette idée d'allocation universelle, elle apparaît, pas seulement, hein, parce qu'il y a le premier à le formuler, c'est un homme politique pétainiste, hein, faut quand même le savoir. On en reparlera peut-être une autre fois. Elle est ensuite reprise et assumée, en théorie, parce qu'en pratique elle n'a jamais évidemment été mise en place, mais elle est reprise et assumée ensuite par les néolibéraux, qui considèrent finalement que, à la limite, vaut mieux payer, même pas beaucoup, des gens à rien foutre, d'une certaine manière, que de prélever une partie de la richesse produite de manière autoritaire pour payer des frais de santé qui peuvent être, eux, être exorbitants à ces pauvres qui prennent pas soin de leur santé. si je résume un petit peu. Foucault est partisan de cela, de cette mesure-là, d'allocation universelle. Alors, elle est défendue aujourd'hui par d'autres, par des libéraux radicaux de gauche, ça existe, hein, je pense à des gens comme Van Parijs. Elle est défendue par certains libertaires, notamment au nom d'une analyse de la dislocation du salariat et d'une abolition, une conception un peu abstraite de l'abolition du salariat. Et cette revendication, Foucault l'a fait sienne également. Sur l'idée que, ben, effectivement, elle a le mérite de respecter finalement les choix de chacun. Ensuite, si certains veulent travailler pour améliorer l'ordinaire, si certains veulent plutôt vivre de telle ou telle manière, ben, ils le peuvent sur la base de ce revenu-là. Alors, pour moi, c'est typiquement une conclusion de philosophe. C'est-à-dire que, concrètement, on n'a jamais vu la queue d'un sur cette allocation-là. Évidemment, personne ne s'abaisse à calculer le montant de l'allocation en question. Mmh. Personne ne s'abaisse non plus à voir qui pourrait la financer, qui pourrait contrôler le montant.
Est-ce que c'est compatible avec une position qui est globalement opposée à l'imposition?
Ah ben tout à fait. L'idée c'est effectivement de supprimer au maximum l'impôt, de supprimer toute forme de protection sociale. Ça veut dire évidemment non plus effectivement supprimer la retraite par répartition. Ça veut dire aussi supprimer l'assurance chômage et bien évidemment la sécurité sociale. C'est-à-dire une fois qu'on a donné ça, on est quitte. La collectivité, les individus sont quittes en quelque sorte. Hein. C'est une alternative et ça a toujours été pensé chez les néolibéraux comme ça, comme une alternative à la protection sociale et à la sécurité sociale au sens large. Hein. Et c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il y a un certain nombre de camarades libertaires qui parfois sont pas forcément toujours conscients du contexte dans lequel émerge cette revendication.
Du paquet cadeau,
exactement. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bien voir que c'est pensé comme une alternative à la répartition des richesses et dans le cadre de la sécurité sociale et de l'impôt. Voilà. Ça veut dire aussi, bien évidemment, tous ces néolibéraux sont favorables une réduction drastique du service public. Hein.
On transforme les prolos en rentiers.
Oui, tout à fait.
Et puis
petits rentiers. Tout petit, pas précisé.
Oui, c'est pas précisé. Non, on les transforme en petits rentiers et puis en échange, ils doivent payer leurs dents, leurs frais d'hôpitaux,
leur école,
leur vieillesse, leurs hospices, etc. Ah, c'est bien. C'est, ouais.
voilà. Alors c'est pareil. Je savais pas que Foucault avait fait effectivement de cette forme ce qu'il appelle l'impôt négatif un de ses chevaux de bataille, mais c'est bon à savoir. Bon, là-dessus, ça fait mouche. Hein, il me semble les critiques, c'est pas négligeable. Alors, peut-être pour terminer un petit peu cette espèce de compte-rendu un peu survolant là, hein, du livre, dire deux mots sur un article en particulier, c'est celui de Loïc Vacant, donc que j'ai évoqué au départ. Loïc Vacant, donc, est un sociologue, élève de Bourdieu, spécialiste des prisons.
En particulier des prisons américaines.
En particulier des prisons américaines et au fait du tournant carcéral, ce qu'il appelle le tournant carcéral des États néolibéraux. C'est une pointure, alors un peu mégalo, hein, faut le dire aussi. Vaut mieux pas avoir de relations de travail avec lui, notamment quand on est éditeur. Bon, je ne dirais pas beaucoup
détails.
Plus.
Surtout qu'il y a une note assassine dans le bouquin.
Oui,
mais bon.
Si on laisse de côté ces aspects liés à la personne vacant, son article est assez carré, je trouve, parce que lui, il prend Foucault finalement à la lettre en disant alors c'est le deuxième Foucault, si je puis dire, c'est-à-dire celui de surveiller et punir, hein, c'est-à-dire celui de l'analyste des prisons, du panoptique et puis des sociétés disciplinaires. Et il prend un peu Foucault à la lettre en essayant de voir, bon, ok, Foucault nous analyse les sociétés, les évolutions de la société en 71 de cette manière. Bon voilà, on a 40 ans de recul, où on en est? Et d'après lui, en fait, il y a des choses que Foucault a bien analysées avec brio. Et puis, il s'est aussi planté assez largement sur un certain nombre de points qu'il recense. Donc, je vous les évoque quand même. Donc, je cite, hein, ça c'est page 123. Il dit alors, donc, il repère quatre erreurs de Foucault sur le carcéral. Première erreur, d'après lui, tout d'abord, Foucault s'est mépris en annonçant le recul du pénitencier, c'est-à-dire de l'enfermement physique, si vous voulez.
Des Foucauldiens avaient déjà remarqué ça.
Voilà. Vacant continue. Au contraire, l'emprisonnement pénal a fait un retour en force fracassant et s'est partout réaffirmé comme l'une des missions centrales du Léviathan de l'État, si vous voulez, au moment même où Foucault et ses adeptes proclamaient son déclin. Le chiffre est intéressant. Il y avait moins de 25 000 détenus en France en 1975. Ils sont aujourd'hui plus de 68 000. Hein, sur le laxisme supposé de Taubira, etc. Ou de tous les autres. C'est un chiffre à avoir. 25 000, moins de 25 000 en 75, 68 000 aujourd'hui.
On peut faire la progression proportionnelle.
Le ratio, bon, mais
par
c'est...
rapport à la population, etc. Voilà. Mais bon, malgré tout.
Et on a là une multiplication presque par 2,5. Bon, voilà. On continue. Ensuite, deuxième erreur, d'après lui. Ensuite, les technologies disciplinaires, donc c'est tout ce qui est lié à l'usage du panoptique, hein, et aux modèles du panoptique, dont on a parlé tout à l'heure, ne se sont pas déployées au sein du système carcéral surdimensionné et surchargé de notre fin de siècle. Dit vacant. La classification hiérarchique, l'organisation méticuleuse de l'emploi du temps, la lutte contre l'oisiveté, la surveillance rapprochée et l'enrégimentement des corps, ces techniques de normalisation pénale ont été rendues impraticables par le chaos démographique généré par la surpopulation. Il continue, en lieu et place du dressage censé façonner des corps dociles et productifs postulés par Foucault, ça c'est surveiller et punir, la prison contemporaine vise à la neutralisation brute, à la rétribution aveugle et au simple entreposage des corps, par défaut si ce n'est par choix. S'il existe des ingénieurs de la conscience, la formule est de Foucault, et des orthopédistes de l'individualité, là aussi c'est une formule de Foucault, ils sont certainement plus employés dans l'administration pénitentiaire. Remarque vacant. Hein, ça c'est le sur le point. Sur le côté discipline soft, en quelque sorte, qui était mis en avant par le modèle du panoptique et qui fournissait, d'après Foucault, un modèle pour comprendre la manière de gouverner les sociétés, les individus modernes. Donc, deuxième erreur de Foucault, hein, c'est pas du tout à ça qu'on assiste à l'intérieur des prisons en tout cas, mais plutôt un stockage brut des corps. Hein, à l'ancienne, pourrait-on dire. Il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Il y a même plutôt un recul. En troisième lieu, troisième erreur, les dispositifs de normalisation ancrés dans l'institution carcérale n'ont pas été déployés à travers la société à la manière de capillaires irriguant l'ensemble du corps social, bien au contraire, dit Vacan. Alors ça, c'est l'image qui est très forte chez Foucault, l'idée que le panoptique, finalement, est passé à travers les murs de la prison, hein, que la société tout entière serait devenue une société panoptique avec l'idée d'une espèce de tyrannie, de la transparence, de la surveillance, etc. Alors c'est plus compliqué que ça. Nous dit Vacan. L'extension, et je pense que c'est le. Enfin, pour moi, c'est la critique la plus importante. Hein, il dit l'extension du filet pénal sous régime néolibéral a été extrêmement discriminant. En dépit d'une hausse spectaculaire de la criminalité d'entreprise, il n'a pratiquement touché que les habitants des régions les plus basses de l'espace social et physique. La pénalisation n'est pas une logique maîtresse qui traverse l'ordre social à l'aveugle pour plier et lier ses composantes. Au contraire, c'est une technique biaisée qui procède selon un gradient de classe, d'ethnicité et de lieu, et qui opère de sorte à diviser les populations et à différencier des catégories en fonction de conceptions établies de la valeur morale. Alors ça, je pense que c'est le gros morceau, si vous voulez. Traduction, ça veut dire qu'au fond, on n'a pas affaire à une espèce de système aveugle qui ne tient pas compte des personnes sur qui il s'applique.
C'est-à-dire qui surveille universellement.
Qui surveille universellement, statistiquement, des grandes masses, sans s'intéresser
à qui
se trouve effectivement pris dans les filets disciplinaires du contrôle de la surveillance. Vacan dit pas du tout.
En gros, c'est les pauvres un peu foncés.
Les pauvres foncés, habitant dans les quartiers dits difficiles, sont évidemment sur-ciblés par les évolutions de la prison dans les états néolibéraux. Donc là-dessus, Foucault nous empêche tout simplement, en proposant une espèce de théorie générale, en quelque sorte, de l'évolution des sociétés, ce que Foucault nous empêche, entre guillemets, de voir, c'est le caractère extrêmement discriminant de la prison aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui est en prison. Voilà. C'est pas un état aveugle ou un système de surveillance, un personnel statistique.
Je suis pas sûr que ce soit totalement juste comme critique. Parce que justement, dans Surveiller et punir, il insiste beaucoup sur le fait que, alors, sur le fait qu'il y a quand même un aspect, un peu de classe dans cette justice qui est rendue. À savoir que c'est les pauvres qui volent qui vont être punis. Et je crois qu'il y a des phrases très très claires où il dit que justement, d'une certaine manière, la bourgeoisie a taillé un droit, qui est parfaitement adapté à la criminalité, en col bleu.
La question qu'il faut se poser, si tu veux, c'est est-ce que effectivement, alors ça c'est une question, bon voilà, c'est plus sur la manière dont on lit Foucault aujourd'hui. Est-ce que ce qui fait pas la séduction effectivement des analyses de Foucault, notamment sur la prison, c'est pas l'idée. C'est pas l'espèce de modèle justement du panoptique. Faut voir ce que c'est que le panoptique quand même dans les discussions. C'est-à-dire l'espèce de, on a un document historique, un projet de prison particulier, et puis d'une certaine manière, on a un peu le sentiment quand même parfois chez certains lecteurs de Foucault que ce document-là, ce projet particulier, et tu espèces une espèce de clé un peu secrète pour comprendre, tu vois, la manière dont sont organisées les sociétés modernes. C'est souvent lu comme ça, de cette manière. Je pense que c'est ça qui est visé par Foucault. C'est l'idée qu'effectivement le tout, c'est pas de décrire effectivement l'architecture du panoptique. Faut voir qui est dedans. Faut voir qui est dedans et voilà.
Ouais, Foucault aimait bien les effets de manche et c'est clair le panoptique c'était un texte super séduisant et puis avec son style, il pouvait le mettre en scène d'une manière extrêmement brillante. Malgré tout, je pense que encore en surveiller et punir, je préjuge pas de
la suite,
du reste, quoi. Et encore dans surveiller et punir, il y a quand même l'idée que c'est les pauvres qui vont prendre plein la gueule.
Bon. Ça c'est difficile en même temps à dissimuler, même quand on est un as de la rhétorique. Bon, donc troisième critique, voilà, avancée par Vacan. La dernière, elle porte sur le caractère censé être de plus en plus discret, finalement, du pouvoir. Hein. Alors, on connaît tous les premières pages de Surveiller et Punir sont célébrissimes. Hein. C'est donc l'écartèlement de Damien, le
supplice, hein, parce que l'écartèlement, c'est que
Foucault montre une espèce de cruauté, de sauvagerie pratiquement insoutenable pour nous aujourd'hui d'une cérémonie de ce type-là. Et ensuite, effectivement, ça sert, si vous voulez, ces premières pages, à montrer comment le pouvoir s'est progressivement rendu de plus en plus invisible. C'est-à-dire que l'avantage du panoptique, c'est qu'on ne voit pas le gardien. On ne voit pas le gardien, bien sûr, on ne voit pas qui nous contrôle, on ne sait même pas qu'on est contrôlé, on ne sait pas si on est contrôlé ou pas. Évidemment, toute l'efficacité de la discipline, cette technique de gouvernement particulière
réside dans sa discrétion.
Et Vacan n'est pas du tout d'accord avec ça. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors je vous dis le dernier point là encore. Il dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que la cristallisation d'une pornographie sécuritaire, j'aime assez la formule, soit l'inflation et l'inflexion accélérée de l'activité pénale conçue, mise en scène et mise en œuvre dans le but principal d'être exhibée sous des formes ritualisées par les autorités, dont le paradigme, le modèle si vous préférez, est donné par la réintroduction à demi avortée des brigades enchaînées de condamnés en uniforme rayé dans les états du sud de l'Amérique. Théâtralisation de la pénalité, nous dit Vacan, elle a migré de l'état vers les médias commerciaux et le champ politique dans sa totalité. Et elle s'est étendue depuis la cérémonie finale de la sanction de sorte à englober l'intégralité de la chaîne pénale en accordant une place privilégiée aux opérations de police dans les quartiers déshérités et aux confrontations judiciaires impliquant des célébrités. La place de grève où le régicide Damien avait été supplicié, a ainsi été supplantée non pas par le panoptique mais par la chaîne câblée consacrée aux affaires judiciaires et par la profusion des émissions de télé-réalité construites autour du couple crime et châtiment. Hein, et alors ça, pour le coup, je veux dire, n'importe quel, vous allez sur D8, c'est tous les soirs. C'est-à-dire que la caméra embarquée, évidemment, le motif de la caméra embarquée dans la voiture de flic est devenu une espèce de lieu commun, hein, et de mise en scène, effectivement, permanente en quelque sorte, du pouvoir répressif de l'État et du contrôle des pauvres. Hein, faut bien dire les choses. L'idée de Vacan, c'est que ce que n'a pas du tout vu, et pour cause, d'une certaine manière, Foucault, c'est que ce tournant pénal des États néolibéraux, lui, il identifiait ça, effectivement, c'est corrélatif avec l'arrivée du néolibéralisme thatchérien et réganien, ça va exactement en même temps, historiquement. Il dit, c'est pas du tout une espèce de mutation sociétale un petit peu abstraite, il dit, c'est tout simplement un remodelage de l'État. Et un durcissement des missions, alors régaliennes pourrait-on dire, de l'État, et un durcissement tout simplement du contrôle des pauvres. C'est-à-dire que dans le même temps, on démantèle tous les systèmes de protection sociale et de solidarité sociale, notamment la Sécu vilipendée par Foucault. Hein. On fait ça c'est la main, c'est la politique économique. Et puis dans le même temps, faut bien contrôler les gens qui sont réduits effectivement à rien par ces politiques-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les met en taule, tout simplement. C'est pas simplement une espèce de vision abstraite, un modèle un peu de pouvoir, de contrôle invisible, qui permettrait à chacun de se construire en fonction de ses propres valeurs. Non, pas du tout. Ça a une fonction politique très claire qui est liée justement à la politique économique néolibérale de démantèlement de l'État social. Donc c'est
l'idée de Vacan, c'est que finalement la suppression de toute politique sociale, c'est un transfert de fonds.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est un transfert de fonds. Au lieu de donner des allocs aux pauvres, on réutilise le fric, et encore plus d'ailleurs, des allocs pour pour construire et payer des gens pour garder les pauvres qui sont venus en prison.
Exactement.
Et il remarquait que la politique pénale, finalement, si on comparait les budgets de la politique pénale et la politique sociale, la politique pénale, le budget de la politique pénale augmentait au fur et à mesure celui de la politique sociale diminuait.
Voilà.
Mais il y a un gros transfert de fonds parce que c'est plus des pauvres individuels qui touchent, c'est des entreprises privées qui sont payées pour construire et entretenir des prisons.
Tout le marché, effectivement, le business de la prison. Ce qui veut dire, du coup, qu'au fond, d'une certaine manière, on aurait peut-être intérêt, y compris à revenir à une analyse assez claire, effectivement, de l'État.
En France, on appelle ça des partenariats publics-privés.
Hein. Absolument. Donc voilà, alors j'ai pas parlé, on va s'arrêter là-dessus, j'ai pas parlé, il y a des articles très intéressants aussi sur un certain héritage de Foucault dans ce qu'on appelle aujourd'hui des études de gouvernementalité. On montre très clairement comment, finalement, il n'y a aucun recul critique, finalement, vis-à-vis des usages managériaux, en quelque sorte, des techniques de gouvernement inspirées de Foucault. Hein. Pas perdre de vue qu'un certain nombre d'élèves de Foucault sont travaillent aujourd'hui pour le MEDEF, hein, je pense à François Evald, entendu. Donc c'est un petit livre très intéressant, Critiquer Foucault, les années 80 et la tentation néolibérale, beaucoup de choses. Hein, donc on vous le conseille, vraiment. Et puis on vous dit à la prochaine.
Est-ce que vous avez annoncé le deuxième morceau que j'ai passé?
Oui, j'ai annoncé José. José demande si j'ai précisé quel était le deuxième morceau, et oui, je l'ai fait, José.
Parce que je faisais pipi.
Voilà, il n'était pas disponible à ce moment-là, donc il ne m'a pas entendu préciser quel était le morceau qu'il avait passé.
Rendez-vous sur le site, hein, jeudinoir.guillaumedulu.org. À la prochaine, salut.